Les Cascodeurs Podcast, épisode 248, spécial Loi, Société et Organisation avec Agnès Crépé et Tariq Krim. Enregistré le 5 février 2021.
Bonjour à tous. Vous allez voir qu'on a un invité dans cet épisode et que l'introduction en fait de cet invité a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on a tendance à faire d'habitude et qu'on a un petit peu parcouru l'histoire de Tariq Krim, de ses débuts de rencontre avec l'informatique jusqu'au moment présent. Et en fait, c'est une coupe intéressante. En fait, l'histoire de Tariq, c'est une coupe intéressante sur l'histoire de la micro-informatique, de la popularisation d'Internet, de la hacker culture. Et puis, ça éclaire de manière intéressante, ça nous donne un contexte, en fait, sur les sujets qui sont les sujets d'actualité, pour le coup, qui sont abordés après dans cet épisode, qui, du coup, est en deux parties. Voilà, donc, voyez la première grosse demi-heure comme un petit peu une interview Tariq Krim, qui va vous donner un petit peu un contexte pour justement qui va nous éclairer sur les sujets d'actualité qu'on aborde du coup après. Voilà, bon épisode et puis continuez à nous donner du feedback sur ces épisodes Loi, Société et Organisation. Merci, bon épisode.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cascodeurs. Un nouvel épisode Loi, Société et Organisation. Alors on prend les mêmes et on commence
numéro 2.
Bah oui, parce que comment dire, le premier, on l'a enregistré le 6 janvier 2021, ce qui était en soi une bonne idée, mais...
La veille de... juste la veille de l'invasion, on va dire,
du Capitole,
voilà, donc c'est bon.
Voilà, on l'a vu venir.
Annonce fracassante de WhatsApp, donc voilà. Donc on s'est dit, on remet ça, et donc pour cette nouvelle édition, on s'est adjoint, on continue dans les invités de qualité, on a demandé à Tariq Krim de nous rejoindre. Bonjour Tariq.
Bonjour, ravi d'être à nouveau, parce que c'est également, je crois que c'est ma deuxième fois ici.
C'est ta deuxième également.
J'ai regardé 2014.
Waouh, le temps passe. Hein.
C'était le moment du rapport gouvernemental sur les développeurs.
Waouh, absolument, et puis pas grand-chose a changé depuis, on aura l'occasion de parler, j'imagine.
Tariq, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs qui peut-être ne t'auraient pas entendu en 2014, et puis il s'est passé des choses depuis 2014, donc, qui es-tu devenu entre deux?
Ah, écoutez, d'une certaine manière, je me suis toujours défini comme un entrepreneur, mais aussi un activiste du numérique. Hein, donc, pour simplifier, j'ai eu la chance de vivre les années 80, donc ce qui était l'avant-web, donc tout ce qui a été BBS, serveur Minitel, les tout débuts de Linux au début des années 90 et l'arrivée du web, du cyber, de Burning Man, toute cette culture, tout ce qu'on a appelé souvent la cyberculture, qui était en fait une sorte de contre-culture californienne qui s'est évidemment très rapidement transformée en quelque chose d'un peu plus corporate, comme quasiment toutes les cultures, hein, quand on pense au rap qui était underground et qui est devenu la chose la plus commerciale.
J'ai passé les années 60, hein, quand on voit les dirigeants de Canal+, il y a 15 ans, c'était pareil.
Oh là là,
les
oui.
années 60-70, voilà, qui se sont transformés un peu aussi.
Mais c'est un cycle, on a ça pour toutes les cultures, et j'ai eu la chance donc de découvrir la culture, donc dans les années 80, la culture des ce qu'on appelait les hackers, donc essentiellement la culture du Chaos Computer Club, qui était en fait des gens qui m'ont initié à une vision politique de la technologie. Donc j'avais 14, 15 ans, je me suis intéressé au freaking, c'est-à-dire l'usage de, alors maintenant ça fait rire tout le monde, mais d'utiliser ce qu'on appelait des blue box pour téléphoner gratuitement, mais c'était aussi pour se connecter sur les serveurs en Hollande, puis ensuite se reconnecter aux États-Unis, avoir accès aux bases de données américaines. Enfin, c'était tout un espèce de moments un peu joyeux. Et j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois dans la Silicon Valley, d'abord en tant que faire mon stage de fin d'études chez Sun Microsystems. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des gens géniaux qui étaient juste à côté de mon bureau, notamment Goslin, qui est l'un des inventeurs de Java, mais aussi bien plus tard, hein, enfin une version beaucoup plus jeune de Eric Schmidt et surtout de John Gaines, qui était un peu mon mentor, Vincent Duro, qui a été un des avec Alain de Lepulch, qui était qui avait créé les Thomson, TO7 et toute cette époque, et qui maintenant ont été, une grande partie des Johnson sont allés chez Google. Et c'est là que j'ai appris en fait une forme de multiculturalisme très intéressant, qu'il y avait évidemment pas en France, parce que pour la petite remarque, je me suis retrouvé à un moment donné en stage chez Infony, et Infony voulait faire un service propriétaire, et je leur ai demandé est-ce qu'on peut faire une connexion internet, et on m'a dit oui, mais il n'y a pas de matériel pour ça. Et donc j'ai pris mon PC, j'avais une espèce de Dell de bureau, j'ai mis deux cartes 3COM, et on a avec un garçon génial à l'époque, c'était Eric Demazé, qui est maintenant, je crois, aussi chez Google, qui était un de ces rares personnes que je connaissais qui patchait Linux en assembleur. on a créé notre propre première carte réseau. On a fait ce qu'on appelait à l'époque de l'île du masquerading, donc deux cartes réseau et des adresses virtuelles. Et on a mis ça dans un coin. Et puis, deux jours plus tard, quand le service a été ouvert, en fait, les dirigeants d'Infony se sont rendus compte que tout devait passer sur Internet, parce que les gens s'intéressaient pas du tout aux services propriétaires. Les gens s'abonnaient à Infony, à AOL et à tous ces services à l'époque pour aller sur le net. Et donc, à ce moment-là, mon serveur a été downgradé, mais ils ont tout basculé sur une machine beaucoup plus lourde, avec des process. Et donc, ils m'ont évidemment proposé de rester, mais j'avais envie de retourner dans la Silicon Valley. Donc, je suis reparti.
Tu parles de 95-2000,
juste après les débuts de l'internet commercial. Et donc j'ai passé beaucoup de temps là-bas.
Ils ont appris de leur erreur, c'est ça, c'est intéressant, parce que ça aurait pu être aussi non, mais nous on veut garder ce qu'on appelait le fameux jardin de Wall Garden à la AOL, où on veut offrir du contenu mais qui est de chez nous.
Ah mais ça ils l'ont au départ, enfin en tout cas quand j'y étais, ils avaient continué de le garder, mais ils s'étaient rendu compte que un Dell de bureau avec deux cartes réseau qui était mis sur une chaise à côté du routeur n'était pas forcément le montage le plus sérieux, surtout quand tout le monde passait par ce truc. Et d'ailleurs à ce moment-là, pouvoir de Linux, toutes les machines étaient utilisées des Sun OS, donc des machines avec des logiciels, comme vous savez, qui coûtaient excessivement cher. En tout cas, tout était payant. Je crois qu'ils étaient sur Solaris. Moi, j'étais plutôt un fan de l'ancien système qui s'appelait SunOS. C'est là aussi que j'ai découvert le pouvoir de Linux, qui est de pouvoir faire quasiment tout ce qu'on veut avec une simple machine. Et c'est là que, quand je suis retourné après dans la Silicon Valley, j'ai grâce à un de mes mentors aussi qui s'appelait Gilles Bocongibo, on a fait plein de trucs débiles. On a monté un site qui s'appelait perdu.com. J'avais trouvé le nom de domaine, lui il l'avait mis. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Vous êtes ici, il avait fait une croix. Et ce site est devenu un peu culte, je crois qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. On a monté un réseau alternatif qui s'appelait réseau.net. On avait à un moment donné hacker.org, mais on l'a perdu pour des raisons un peu bizarres. Et donc j'en profitais à la fois pour aller dans les conférences de hackers, les conférences de cyber, et je faisais un métier quasiment officiel, j'étais à Radio Nova à l'époque, et ensuite à la Tribune, de journaliste. Et là j'en profitais pour parler, j'ai rencontré Jeff Bezos, je crois que j'ai dû faire la première interview en France. Personne voulait y aller parce que personne s'intéressait à Amazon dans les journalistes entre guillemets sérieux, alors que moi j'étais là avec des yeux qui brillaient. J'y vais.
C'était quand ça
C'était en 96.
Ah ouais, d'accord.
Donc, c'était vraiment au tout début. Et donc, j'oscillais entre la France à l'époque et San Francisco. Et donc, j'ai acquis cette espèce de culture cyber qui m'a vraiment fasciné. Et un jour, j'ai interviewé quelqu'un et je me suis dit, tiens, je veux être cette personne. Et donc, j'ai décidé d'être entrepreneur. Et donc là, en rentrant, comme je venais du monde des médias et que je m'intéressais beaucoup à l'époque à Python, j'ai découvert un framework qui s'appelait Zope, dont je pense que j'ai dû contribuer. J'ai contribué à l'amener en Europe. Pour monter une plateforme de blog, et notamment un blog qui est devenu assez célèbre après, qui s'appelait Génération MP3. Et j'avais une fascination pour la musique en ligne, pour le MP3, pour le fait qu'avec un baladeur, j'allais pouvoir télécharger tous les labels indépendants. Ce sujet m'a fasciné. J'ai fait une mission pour les labels indépendants. Ensuite, quand la SACEM a voulu attaquer tous les gens qui téléchargeaient, J'ai avec un groupe d'amis, on a trouvé les avocats qui nous ont dit on a défendu tous les gens qui se faisaient attaquer, parce qu'on se disait c'était inacceptable qu'un petit nombre de gens en fait se reçoivent des amendes pour une pratique je sais pas si vous vous rappelez les années, le début des années 2000, parce que là on est à peu près 2001, entre 2001 et 2004, tout le monde téléchargeait, on allait sur Napster, oui. sur LimeWire, sur Kazaa.
Tu lançais tes téléchargements la nuit, voilà. Et tu les récupérais le lendemain matin, bah oui.
Mais surtout, il y avait un site incroyable qui s'appelait Audio Galaxy, qui avait une espèce de bibliothèque attachée au téléchargement, et c'est là que j'ai... Il m'est arrivé rarement dans ma vie où des moments où tu découvres un nouveau style musical et là tu découvres tous les artistes clés et tu peux télécharger des choses incroyables. Et là j'ai découvert en fait, moi j'aimais beaucoup la musique électronique, mais j'avais toute une culture de la côte ouest que je commençais à voir émerger à Los Angeles, à San Francisco. Et là je me suis régalé, j'ai téléchargé plein de choses. Et donc cette idée, c'était aussi qu'il fallait, le MP3 était sans DRM et par contre toutes les grandes plateformes, qui poussait d'ailleurs pour la criminalisation du téléchargement, voulait utiliser c'était une solution Microsoft qu'on appelait le WMA, qui était, elle, attachée avec un DRM. Et donc, c'est là que j'ai pris conscience que la libre circulation des contenus était quelque chose sur laquelle il fallait se battre et que les formats ouverts, alors il y a eu un autre format qui est devenu un format totalement libre, qui est Ogg Vorbis, mais maintenant, MP3 est rentré dans je crois qu'il est quasiment dans le domaine public, où qu'il n'y a plus de problème de licence, donc c'est bonnet blanc, blanc bonnet, hein, d'un point de vue de toutes ces techniques. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, si vous voulez, qu'il y avait toute une nouvelle culture qui devait émerger. Et donc, c'est mon premier rapport à la loi. C'est-à-dire que en 2004, en 2004, on commence à travailler sur ce qu'allait devenir la loi DAFSI, qui était une loi sur la criminalisation de la musique, une directive européenne, qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé avec l'article 17 ou article 13 récemment. C'est-à-dire que, comme vous le savez, la vie est un éternel recommencement. Et à ce moment-là, on a fait un truc assez génial, dont j'ai jamais parlé publiquement, mais qui est assez drôle. C'est que quand on a... Non, mais c'est une histoire assez intéressante sur la collaboration. C'est-à-dire que le gouvernement, qui était le gouvernement de Donné Dieu de Vabre, et il y avait Sarkozy, ministre de l'Intérieur, c'était le gouvernement de Chirac à l'époque, voulait aller très vite pour promouvoir les gros, c'est-à-dire Universal, etc. Et donc, on est allé faire du porte-à-porte. Alors, il y avait un petit groupe de libristes qui, notamment Jérémy Zimmermann, qui a après monté la Quadrature, mais ça, c'était bien avant. Il y avait des gens comme nous. Et puis moi, j'étais un peu... j'allais pas dire que j'étais en mode touriste, mais j'avais envie... Je trouvais que le monde du MP3 était fantastique, que c'était une culture incroyable, comme l'a été le skate, comme l'a été le rap, comme l'a été la musique électronique. Et de la même manière que j'étais contre l'interdiction des rêves, contre l'interdiction du skate. Il y avait à l'époque, on voulait interdire le skate dans la rue. Contre... tout ça, ben j'étais aussi contre l'interdiction du MP3, c'était évident. Et donc on a commencé à convaincre des députés qu'il fallait prendre le sujet. Et quand la loi doit arriver, ce qui s'est passé, c'est que c'est une technique habituelle, hein, c'est que pour que vous n'ayez pas le temps de préparer vos arguments, on vous donne le document 2 heures avant. Comme par hasard, le projet de loi arrive 2 heures avant, et donc là vous avez le temps que vous faites. Et à ce moment-là, il y avait une application, j'étais en train de commencer à travailler sur NetVibes, et il y avait une application qui s'appelait Writely, qui a été depuis rachetée par Google et qui est devenue Google Docs. J'ai mis le document sur Writely, et on avait un document collaboratif, c'était d'ailleurs une des premières fois dans l'histoire où un document comme ça a été utilisé de manière collaborative. On avait Larry Lessig, que vous connaissez bien, le juriste Code is Law. Il se trouve que Berkman Center, donc Harvard, qui est un groupe de travail spécialisé sur les médias et l'internet, ils avaient des étudiants qui avaient travaillé sur la loi copyright et qui avaient fait une comparaison dans tous les pays. Et on est allé voir un juriste qui est un spécialiste en droit constitutionnel et on lui a dit ce paragraphe, on lui a juste sorti le paragraphe. Est-ce que vous pensez que ce paragraphe est constitutionnel ou pas? Et il dit non, et il nous détaille pourquoi, et je le mets en commentaire. Quelqu'un d'autre va voir une autre personne. Ensuite, il parle de BitTorrent. J'appelle Eric Dumazet, qui à l'époque faisait Idonkey, et qui parlait justement de l'explication précise dont les protocoles type Kazaa et autres. Lui faisait comment les protocoles fonctionnaient. Donc on avait une quote d'une des personnes lead développeurs sur ce projet. On avait une analyse par un spécialiste de juridique sur toutes les déclinaisons dans les autres pays d'Europe. Et en fait, on est arrivé et on a préparé en moins de 2 heures une réponse au projet de loi qui était béton, où on avait vraiment chaque argument avait été vu par un des meilleurs spécialistes. Dans le monde pré-internet ou pré-collaboratif, il aurait fallu appeler les gens. Et en fait, on s'est séparé le travail. Et ce qui a été brillant, c'est que cette loi a été votée. Les députés, y compris de la majorité, ont voté contre. On est allé faire du porte-à-porte, on est allé voir tout le monde, on leur a dit c'est une catastrophe si vous faites ça. Et on les a convaincus. Et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'ils ont annulé la loi, ils ont demandé de refaire un vote. Et je me suis retrouvé convoqué à ce moment-là chez Sarkozy et notamment sa directrice de cabinet qui s'appelait Emmanuelle Mignon à l'époque. Et je me suis rendu compte que ces gens n'avaient aucune vision géopolitique de l'Internet. C'est-à-dire qu'ils voyaient toujours les choses de manière, pas le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire en gros, le téléchargement c'est du piratage, il faut l'arrêter. Or derrière, il y avait vraiment une question de soft power culturel. La question de savoir si des grandes plateformes de l'époque, à savoir Microsoft, Universal, devaient préempter le monde de la culture. Qu'est-ce qui se passe si on met des DRM? C'est-à-dire que si on empêche la copie, ça veut donc dire que tous les mécanismes de copie, vous savez, quand on achetait à l'époque un CD vierge, et je crois même d'ailleurs qu'ils essayent de l'étendre aujourd'hui au PC d'occasion, on paye ce qu'on appelle une redevance pour copie privée qui permettait la copie. Sauf que si on interdit la copie, cette redevance n'a plus aucun intérêt. Or, plein de gens réfléchissaient là-dessus, notamment vivaient là-dessus, notamment la DAMI. Et la DAMI m'avait fait faire une mission, une sorte de mission que j'avais fait sur le sujet. Ils avaient proposé l'idée de faire une sorte de licence légale que eux ont appelé la licence globale. Et cette idée qu'on pourrait avoir un fonds. Enfin, moi, en tout cas, ma perception des choses, c'était de se dire une partie de la copie privée devrait financer un fonds. Il devrait y avoir en permanence un fonds culturel librement accessible sur l'Internet. Les vieux films, le domaine public, etc. Et ensuite, aider les entreprises à se moderniser et à vendre de la musique. Moi, j'avais poussé tous les labels de musique électronique, notamment le label des Daft Punk, mais aussi Versatile, et plein de gens allaient vers une société qui s'appelait Blip, qui était une société anglaise qui dépendait d'un label assez connu en musique électronique, qui était le label Warp, qui avait fait un système de vente de MP3 à l'unité, un peu comme ce que fait Bandcamp aujourd'hui, et qui marchait très bien, parce que quand on adore un artiste, on achète ses MP3, on achète ses concerts, c'est la fameuse, vous connaissez la théorie des 1000 fans de Kevin, le cofondateur de Wired, qui dit, il faut, pour vivre de son boulot, il faut juste avoir 1000 personnes qui sont des vrais fans et qui achètent tout ce que vous faites quand vous le faites, qui vont à tous vos concerts. Et je trouvais cette idée assez pertinente. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'une partie de l'administration française, en fait, était totalement éberluée par la vision américaine et en fait avait abandonné l'idée de pouvoir construire des choses. Et c'est un peu les fondamentaux de ce qui a été après mon combat sur la souveraineté.
Éberluée et sans la connaître vraiment, en plus. Alors toi, tu y étais un peu plus que peut-être.
Oui, mais j'ai une chance incroyable, c'est qu'avec le métier de journaliste, ça m'a permis. J'ai rencontré Steve Jobs 2 fois, j'ai rencontré Jeff Bezos 2 fois. Après, il s'est trouvé que j'ai un peu arrêté tout ça pour monter NetVibes, qui a été un.
En 2005, hein, c'est ça.
2005, exactement. Ouais. 15 septembre 2005, entièrement fait dans un café à Paris, dans le 11e. Et NetVibes devient tout de suite le produit que toute la Silicon Valley s'échange. Je reçois un mail de Marc Andreessen que j'avais pas revu depuis les tout débuts du web sur la spécification pour Mosaic, qui me dit I'm officially impressed. Donc il est devenu un investisseur. J'ai fait venir d'autres gens. TechCrunch a commencé à parler de nous. On a eu. J'étais un peu dans le modèle de la tech telle qu'elle existe aujourd'hui, mais avec 10 ans d'avance, que en 2005 les investisseurs français en fait étaient pas du tout adaptés pour financer ce genre de produits. Donc je suis allé voir les investisseurs de Facebook et de Skype, Index et Axel, et j'ai eu une espèce de roller coaster. La boîte a explosé, on était très visible aux États-Unis, j'avais mis un bureau à San Francisco. Et on avait une équipe en France, une équipe technique très bonne. On avait vraiment, d'ailleurs, plein de gens ensuite ont monté soit leur boîte, sont devenus des rockstars dans le domaine du design, du développement.
Et t'avais la moitié des utilisateurs qui étaient aux États-Unis, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Et puis on était la troisième page d'accueil. On était derrière évidemment Yahoo, qui était à l'époque le leader, derrière Google, qui avait décidé de transformer Google.com en un clone de NetVibes, qui s'appelait iGoogle. Et on était devant Microsoft et AOL. Et quand on s'est rendu compte de ça, ce qui était un miracle. On a eu après tous les prix possibles et imaginables. On a eu le fameux Crunchy Awards, qui était le je crois qu'on est la seule boîte française d'ailleurs à avoir eu ce prix, qui était un espèce des Oscars de l'internet, qui était organisé par TechCrunch, par GigaOM, VentureBeat et tout ça. Et on avait en fait une vision très Silicon Valley dans la manière de travailler, donc design produit. Alors après, c'est une boîte pour laquelle j'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est que j'ai eu ça, c'est une notoriété publique. J'ai un de mes investisseurs qui a absolument tout fait pour essayer de prendre le contrôle de la boîte. Donc, j'ai passé un an au lieu de faire grandir la boîte à me battre, à essayer de préserver les choses. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas eu le courage de faire ce que parfois on doit faire dans une boîte, c'est de se séparer des gens qui sont pas d'accord avec toi et de travailler avec les gens avec qui t'as envie de travailler. Ça a été une erreur parce qu'on a eu plein de propositions. On avait une offre d'achat de Google, de AOL, et pendant que tout ça se passait, j'avais une personne qui essayait en gros de reprendre le contrôle de ma boîte pour ensuite la fusionner avec la sienne, pour la suite la fusionner avec une autre. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, et il a plutôt bien réussi. Mais j'avais le sentiment que, et ça c'est un conseil que je donnerais vraiment à tous les entrepreneurs, c'est faut vraiment travailler avec des gens qui respectent votre vision et qui vous respectent, c'est-à-dire pas des gens qui se disent à un moment donné je sais mieux faire, ou je vais faire à ta place, ou je vais prendre ce que tu as fait, ou et ça c'était à l'époque ça a beaucoup changé, hein, mais
j'ai une question parce que ça en fait quand t'as commencé à parler de ça, il y a la diversité et inclusion qui m'est venue en tête parce que c'est un sujet un peu d'actualité et je me rappelle plus, Audrey tu pourras peut-être m'aider, mais à un moment je sais plus une personne de quelle boîte qui expliquait comment en fait finalement le CEO s'était enfermé et n'avait que c'était une chambre à écho positif autour de lui, et en fait dès qu'il y avait du non consensuel, c'était finalement écarté et puis éjecté, et du coup la boîte partait dans un côté négatif. Et donc quand tu dis voilà, il faut s'entourer de gens, alors le mot respect évidemment vient contrecarrer ça, mais si tu te dis je m'entoure que des gens en gros qui sont d'accord avec moi, il y a un défi, tu vois, entre cet équilibre là enfin la notion de respect et la notion d'écouter des choses que t'as pas forcément envie d'entendre, en tout cas sur le moment.
Non, bien sûr, mais moi c'était, enfin je le voyais pas vraiment, je suis entièrement d'accord, mais bon, déjà d'un point de vue ma product manager, c'était la première fois je crois que dans une startup avait une femme product manager, et en fait si tu veux j'avais pas réfléchi à la question de savoir si c'était une femme ou pas. C'est que je lui ai posé le problème, on s'est vu, elle était basée à Munich. Et elle m'a renvoyé un document en me posant des questions. Et à chaque fois qu'elle posait des questions, j'ai envie de dire, mince, en fait, elle a raison. Ça, c'est vrai. Et donc, à un moment donné, tu te dis, moi, j'avais toujours un tropisme très produit. Mais à un moment donné, c'est intéressant d'avoir des, en fait, ça, c'est le fit qui fait que ça marche. Et le fit, c'est qu'en fait, chacun d'entre eux, j'ai pas toujours obtenu ça. J'ai fait plein d'erreurs, mais en même temps, NetVibes, c'était un peu ma première boîte. C'est aussi désespérant parce que on était sur une lancée incroyable et que quand tu penses à ce que t'aurais pu faire, ça te fait toujours un peu mal au cœur, mais en même temps, tu te rends compte que le but que t'as en tant que manager, c'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est d'avoir, de permettre à la meilleure version de toi-même et la meilleure version de tous les gens avec lesquels tu travailles d'émerger. Et donc, ça veut dire qu'il faut créer des environnements de confiance où les gens grandissent. Il faut aussi parfois être capable de... Parce que trop de consensus tue la boîte, et je m'en suis rendu compte. À un moment donné, j'ai commencé à vouloir écouter plein de gens. Et à la fin... t'es pas content parce que ce que tu veux, c'est le timing pour arriver à quelque chose ne marche pas, et le design par committee, ça marche pas. Par contre, ce qu'il faut identifier, c'est les talents des gens spécifiques pour résoudre des problèmes, et donc tu dois donner des problèmes, des challenges aux gens, et tu dois leur donner la capacité de les résoudre. C'est-à-dire que si t'as confiance, et c'est ça aussi le vrai travail de choix, c'est qu'à un moment donné, si t'as confiance dans les gens, ça veut dire que tu leur donnes le problème et ils reviennent à moitié la solution. Et la technique que j'ai fini par comprendre qui marche, c'est de dire, quand quelqu'un veut faire d'une certaine manière et que t'es pas forcément d'accord, tu le laisses faire la moitié du chemin et tu fais un rapport d'étape. Et à partir de la moitié du chemin, soit on s'est rendu compte que le truc marche pas, et dans ce cas-là, on revient sur la version que tu voulais faire. Soit il se trouve que ce que la personne fait marche bien. Et là, c'est l'humilité intellectuelle qui fait que tu dois te dire, putain, il avait raison, en fait, c'est bon. Et là, tu avances. Et dans les deux cas, tu avances. Et dans les deux cas, la relation est bonne parce que tu te dis à ce moment-là que, voilà, c'est ce qui fait, les gens bons ont envie de résoudre des problèmes et ont envie de les résoudre en travaillant avec des idées qu'ils ont. Et si tu leur enlèves ça, en fait, ça devient juste après des robots, quoi. Et donc ça, je l'ai appris en bossant chez projet. Sun, en étant à Silicon Valley, où on avait des Pakistanais, des Indiens, des Français, des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains. Et j'ai découvert que chaque personne avait une personnalité différente. Et ça marchait. Et c'est vrai que c'était un peu différent du modèle. Alors, toi, j'ai recruté des gens qui n'avaient pas de diplôme. J'ai recruté des gens qui avaient des diplômes qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils faisaient. J'ai recruté des gens qui venaient tout juste diplômés.
Ce qui en France n'est pas. Oui, mais ce qui en France effectivement n'est pas forcément.
Ah oui, alors.
Même dans les startups, hein, d'ailleurs.
Alors, dans le modèle actuel des startups, qui moi me gêne un peu parce que il y a aussi quand même un peu un modèle BDE. Sortie d'école de commerce, un peu, parfois aussi un peu fils à papa, même si je veux pas rentrer dans cette polémique, c'est-à-dire qu'il y a, c'est quand même une classe privilégiée qui a accès à l'argent public, pour faire des projets qui sont pas forcément, comme vous le savez, des projets techniques, hein. Quand j'habitais dans la Silicon Valley, on parlait des dot-com pour les boîtes qui faisaient, des projets en utilisant du web, et des startups, c'était les boîtes de technologie, hein. C'était WebTV qui faisait un décodeur, TV web, c'était Netscape, c'était et puis après Google, et après c'était des boîtes qui inventaient des briques technologiques, alors que la plupart des dot-com étaient des, même si c'est pas vrai parce qu'Amazon a tout développé en interne, mais beaucoup aujourd'hui de boîtes utilisent des briques technologiques développées par d'autres ou les assemblent ou les fine-tune. Mais je sais qu'il y a un débat là-dessus, mais je veux pas forcément rentrer dans ce débat, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu une fascination pour les boîtes technologiques. J'ai un peu moins de fascination pour les innovations marketing ou business, même si je sais qu'elles sont nécessaires. Mais c'est moins mon état d'esprit.
Ouais. Et donc, on parle de Manuel.
C'est parce que là, on a fait un peu l'introduction la plus longue de l'histoire des casse-codeurs.
C'est parfait.
Ouais, elle était belle, celle-là.
Et du coup, je me demande si on veut faire l'épisode, enfin, se recentrer sur les sujets qu'on avait prévus, ou parce qu'après, on peut décider de
dériver. Bah, moi, je voulais juste te dire, enfin, essayer justement de finir sur ta présentation, parce que du coup, t'étais en 2005, t'es de Lives, mais en 2008, tu montes Jolly Cloud, qui est l'avant-dernière boîte que t'as montée. Et comme ça, on pourra finir l'intro et.
Allez, on se donne une demi-heure et puis.
Allez.
Voilà. C'est vrai. C'est vrai que mais en 2008, en fait, Jolly Cloud, ça vient. NetVibe venait d'une idée assez simple. C'est dans un monde où il y a trop de blogs et trop de flux, comment reprendre le contrôle de son attention. Et en 2007-2008, j'ai commencé à voir. J'ai eu un compte Dropbox, j'ai eu des choses comme ça. Je me suis rendu compte, en fait, on va tout faire dans du software et sur le web. Et comme j'étais un fan du web et que j'étais pas forcément un fan des applications iOS et Android. Parce que je considère que le web est la seule plateforme véritablement ouverte. On s'est lancé dans l'idée folle de forquer un Ubuntu et de construire un OS qui avait trois innovations dans le produit. Déjà, on a fait un ordinateur, on a fait un kernel qu'on a entièrement customisé pour que ça marche sur les ordinateurs qui coûtaient $250 avec des processeurs qui n'étaient pas supportés par Linux à l'époque, les fameux Atom et tout ça. Enfin bon, je passe. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place toute une interface de l'OS était web. Donc, on avait en fait un petit truc qui fonctionnait, un démon qui fonctionnait sur la machine. Et en fait, toute la machine, y compris le hardware, était contrôlée par une interface web. Donc, ce qui nous permettait de mettre à jour l'interface web et y compris de permettre aux gens, s'ils le souhaitaient, d'avoir accès à leur interface web depuis un navigateur sans leur OS. La seule différence, c'est quand ils étaient connectés sur leur OS, on détectait le fait qu'ils avaient un OS Jolly Cloud et on leur donnait accès à leur file system, à des choses locales. Et puis la troisième chose qu'on a faite, c'est qu'on a, c'est un peu ce qu'a fait iCloud après, c'est qu'on a fait un outil de synchronisation de certains éléments, donc qui permettait que quand on recrée un ordinateur avec son compte Jolie Cloud, on pouvait reconstruire l'ordinateur à l'identique.
Ok, donc projet très technique.
Projet très technique, et on s'est fait démonter par Google qui a lancé les Chromebooks. Alors même si au début on a eu, c'était comme NetVibes au début, les gens nous adorent, on est hyper innovants, Google nous copie un peu beaucoup. À un moment donné, j'ai compris la machine de guerre. J'ai vu, il y a deux choses qui m'ont en fait fait comprendre tous les sujets dont on va parler sur l'intelligence numérique. C'est que un, Google a appelé tous nos suppliers en Chine et du jour au lendemain, on n'avait plus vraiment. Alors ça, c'est ce qu'on suppute. On ne sait pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais en tout cas, du jour au lendemain, on n'avait plus accès à rien. Donc plus
et tu
de
parles puces, de quel service là? Tu parles de quel service?
De l'ordinateur. Quand on voulait construire notre ordinateur, en fait, on avait besoin de puces. Okay, ouais. Okay. Voilà, le hardware, de puces Intel, de mémoire, et à un moment donné, c'est devenu impossible. Et tous les partenaires avec qui on voulait travailler, Acer, Asus, etc., nous ont tous dit, ah ben non, ça sera avec Google. Donc à partir de là, c'était très dur. Et puis ensuite, on a vu, c'était le président Hollande, qui a fait, une annonce pour dire qu'il allait travailler avec Microsoft sur, un deal avec l'éducation nationale. Et à ce moment-là, Obama annonce qu'ils vont travailler avec les Chromebooks. Et donc, je me suis dit, on est dans le mauvais pays. Nous, on a des gens qui jouent contre leur camp. Et puis, c'était l'époque où j'avais rencontré les gens de l'équipe de Fleur Pellerin, qui ont été les gens qui ont activé le projet de cloud souverain et qui voulaient pas vraiment de l'étude que j'avais fait. Parce qu'au départ, je devais faire une étude sur la French Tech, mais ça m'intéressait pas trop. Je voulais parler des développeurs. Parce que je me disais qu'en fait le savoir-faire c'est quand même le savoir-faire des développeurs et je voulais que les gens sachent. Donc j'avais fait la fameuse liste de 100 développeurs qui n'étaient pas les meilleurs, parce que je sais qu'il y a toujours un truc un peu compétitif, mais juste 100 personnes que je voulais montrer le profil. Alors on aurait pu faire les 1000, les 10 000, parce que je pense qu'il y a quand même, mais il y avait quand même une centaine de personnes comme Bellard, qui étaient des gens qui ont été clés, donc c'était pour montrer que le savoir-faire existe. Et à ce moment-là, j'ai compris que une grande partie du gouvernement ne croyait pas dans le savoir-faire français, ou c'était des opérations un peu coup de poing, genre ce qui a été fait avec Quant, qui a été financé directement par Hollande, je crois. On a demandé à la Caisse des dépôts de mettre de l'argent, mais c'était plus des projets qui, à mon sens, étaient politiques. Mais dès qu'on avait des projets un peu technologiques ou alternatifs pour améliorer soit des stacks de logiciels libres existants, soit mettre en avant des éditeurs ou des services, il n'y avait jamais personne. C'était toujours les grands groupes qui récupéraient les projets. Et de toute façon, il y avait de l'argent que pour les grands groupes. Donc, à partir de ça, je l'ai arrêté en 2015 parce que on a démarré officiellement en 2009, donc ça a fait 6 ans, et c'était les attentats du 13 novembre que j'ai eu, malheureusement j'ai perdu des amis et je devais être à la belle équipe, donc ça m'a mis un vrai coup. Et puis depuis 2005, très clairement, j'ai commencé à me rendre compte du fait que l'architecture de l'internet était devenue toxique, que les réseaux sociaux nous rendaient fous. Il y a eu le Brexit, Trump, et puis la crise du Covid, et depuis 2020, on en parlera. C'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment se remettre au travail pour proposer une vision alternative du numérique, une vision qui est plus conforme à nos valeurs.
Et pour finir l'intro, du coup, là, ta dernière activité, elle est focalisée sur Polite, right?
Alors voilà. Alors en ce moment, je fais trois choses. Là, j'essaye de finir l'écriture d'un livre qui va parler justement de l'idéologie de la Silicon Valley, hein, ce que j'appelle les suprémacistes numériques, c'est-à-dire les gens qui pensent que le monde est une équation à optimiser. Donc c'est cette vision d'efficacité. D'ailleurs, une grande partie des sujets autour de l'IA sont basés dans cette idée d'optimisation constante. Or, je pense que c'est justement dans la non-optimisation des choses que souvent la créativité existe, notamment dans la culture, notamment on le voit dans plein de domaines. Je suis en train de monter un think tank qui s'appelle le Slow Web Initiative, donc slowweb.io, qui va pousser une vision, ce que j'appelle une sorte de renaissance éthique de l'Internet en Europe, donc une vision beaucoup plus apaisée, transparente sur la vie privée, mais aussi sur le design non manipulatif, qui est un gros sujet, puisque vous savez, toutes les applications qu'on utilise sont aussi pensées avant tout pour manipuler nos esprits, pour nous mettre dans des conditionnements psychologiques qui font qu'à la fin, les gens s'insultent sur Twitter au bout de 3 minutes, alors qu'ils se sont jamais parlé de leur vie et qui parlent souvent d'un sujet qu'ils ne connaissent absolument pas. Et donc, voir comment on peut modifier et toutes ces pratiques et aller vers quelque chose de beaucoup plus éthique et beaucoup plus apaisé. Et
Polite, juste qui est en fait toute petite aparté, j'ai regardé. Alors, si vous avez Netflix, j'ai regardé un truc qui s'appelle Death to 2020. Et dedans, il y a un leader d'un réseau social factice à qui on dit, apparemment, en 6 heures ou en 6 jours, les gens deviennent complètement polarisés et abrutis. Il dit, ouais, je sais, mais on travaille à une version qui résout le problème en 5 minutes.
Donc, c'est marrant parce que je pensais que tu allais faire référence à des Social Dilemma qui en français se traduit par Derrière nos écrans de fumée sur Netflix. Et qui revient sur cette économie de l'attention justement. D'accord. Et j'ai trouvé très bien fait que j'ai regardé en me disant que j'allais pas forcément apprendre beaucoup de choses et malgré tout si tu continues à en apprendre et c'est assez désespérant.
Alors si vous voulez apprendre, vous regardez le truc d'Audrey. Si vous voulez rigoler, c'est plutôt mon truc Best of 2020, mais ça vous rappelle tout ce qui s'est passé en 2020 et c'est assez impressionnant en fait. Moi j'avais déjà oublié la moitié.
Tu parlais du Slow Web, Tariq, et initiative pour le think tank que tu lances là. Juste avant l'épisode, Audrey disait qu'elle voulait faire un épisode dédié à ça. Donc, on aura l'occasion de te réinviter et on pourra squeezer l'intro, ce qu'on aura déjà eu dans cet épisode.
Absolument.
Donc, mais si tu es d'accord, ouais, ce serait avec plaisir qu'on aimerait faire un épisode dédié, ouais.
Oui, donc, non, mais voilà. En gros, ce que je dis, c'est que Slow Web, c'est un peu l'équivalent de ce qu'est le bio pour la nourriture. On est ce qu'on mange. Littéralement, et on est aussi la technologie, c'est quelque chose qu'on consomme tous les jours. Et aujourd'hui, elle est devenue indigeste pour plein de raisons qui sont abordées justement de manière très très intéressante dans Social Dilemma et évidemment dans plein d'autres documentaires, parce que je crois que Arte a dû faire au moins 5 ou 6 documentaires sur ces questions. Donc,
Arte est très prolixe sur le sujet, oui. Ouais. Bon, et ben je commence. Et donc une des deux grandes nouvelles qui a un peu secoué le milieu des réseaux sociaux au mois de janvier, c'est que WhatsApp a mis à jour sa politique de confidentialité. Donc très concrètement, elle a été mise à jour de manière à ce que de plus en plus d'informations vous concernant soient partagées avec Facebook et le reste de la famille des sociétés de Facebook. Et donc là, on est quand même à plus de 25 points de données, je crois, par personne. Donc ça devient un petit peu n'importe quoi. C'est pas optionnel dans le sens où si vous êtes un nouvel utilisateur, eh bien vous n'aurez pas le choix d'accepter ou pas cette politique. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que les Européens ne sont pas concernés a priori, puisque ça viendrait enfreindre le RGPD. Les Britanniques, si vous vivez au Royaume-Uni, puisque maintenant, depuis le Brexit, les Britanniques relèvent de...
Non, je crois que les Britanniques, pas encore, mais ça va venir. De ce que j'avais lu, t'es sûr?
Ok. Parce qu'en fait, depuis le Brexit, il ne relève plus de l'Europe, mais des États-Unis, apparemment, en termes de responsabilité. Et donc, dans le thread que j'avais lié, ils sont dedans. Et alors, une des réactions que j'avais trouvées intéressantes à ce changement de politique d'utilisation, c'est l'Inde qui a purement et simplement demandé à WhatsApp de les annuler. Alors, il faut savoir que l'Inde, c'est pas un marché que WhatsApp peut se permettre d'ignorer. C'est quand même plus d'un quart des utilisateurs. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont fait le constat que, justement, les citoyens de l'Union européenne allaient être traités différemment en vertu du RGPD. Et donc, le ministère indien des technologies de l'information a demandé à WhatsApp de retirer ses propositions au motif qu'un tel traitement différencié est préjudiciable aux intérêts des utilisateurs indiens et perçu comme un grave problème par le gouvernement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez sûrement soit vécu vous-même ou vous l'avez vu autour de vous, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait le choix de partir de WhatsApp. Le grand gagnant de la vague, en tout cas sur l'Occident, c'est plutôt Signal a priori, mais on vous a mis des liens aussi vers d'autres applications françaises, dont Olvid, qui est assez intéressant parce qu'il n'y a pas d'accès au carnet d'adresses, vous n'avez même pas besoin d'un numéro de téléphone. Et en parallèle de tout ça, il se pourrait que ça commence à sentir le roussi pour WhatsApp, qui est menacé d'une amende record en Europe concernant justement ces transferts de données vers Facebook. Et il faut savoir que ce n'est pas en lien avec les modifications qui viennent d'être annoncées, mais c'est suite aux modifications qui ont été apportées en 2016, suite au rachat par Facebook, et le partage des données qui s'en est suivi. Alors qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Moi j'étais personnellement assez contente de voir ce fameux effet de réseau se renverser et de voir mes potes partir sur Signal.
Ouais. Je vais rajouter un truc, c'est que c'est pas que les sociétés autour de Facebook. Là, ce qu'ils voulaient vraiment faire, c'est parce qu'il y a une partie WhatsApp for Business où quelqu'un peut automatiser et connecter parler aux utilisateurs via WhatsApp. Et l'idée, c'était de partager aussi ces points-là à des entités externes à la galaxie Facebook. Je pense que c'était d'ailleurs le point principal pour eux, en fait. C'est ça qu'ils voulaient activer derrière leur changement.
Sans perdre de vue que WhatsApp n'est toujours pas rentable. Ils l'ont acheté je ne sais plus combien et ils perdent de l'argent dessus. Donc.
Bon, en tout cas, ce que ça m'inspire, c'est une grosse erreur comme de WhatsApp. Enfin, je veux dire, je pense que ça mélange plusieurs choses. Moi, je trouve ça bien l'effet que ça a eu, au final, sur les gens, tu vois. Ce qui a généré ça, je trouve qu'il y a un gap entre la vraie raison pour laquelle les gens sont partis et le fait que les gens partent, dans tous les cas. Je pense que c'est intéressant dans tous les cas, parce que ça permet aux gens de se poser ces questions-là et de mettre un peu, en exergue le fait qu'on peut challenger ce genre de directives qui sont poussées par des boîtes. Mais je pense que la question, elle va bien au-delà de la politique de confidentialité de WhatsApp. Je pense que c'est comment on peut justement pousser ce genre de réaction de la part du public, des non-techies, quoi.
Moi, la question que je me posais, et j'aimerais avoir ton avis, Tariq, là-dessus, c'est est-ce que les gens seraient prêts maintenant à reprendre le contrôle de leurs données, donc à peut-être payer pour des services, puisqu'à l'heure actuelle, Signal vit grâce à des donations.
Pardon, ouais.
C'est une fondation à but non lucratif qui est derrière. Et je me dis, voilà, est-ce que tu penses, Tariq, que les gens sont prêts à ne plus vendre leurs données à tout prix pour des services gratuits?
Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas y répondre. Je dirais plutôt non pour l'instant. Je pense que fondamentalement, tous les médias ont toujours fonctionné. Il y a toujours eu des modèles subventionnés, hein, radio publique, commerciaux, aussi des modèles sur abonnement, hein, puisqu'on avait avant Netflix, on avait Canal+ et les chaînes du câble. La question en fait qui se pose pour moi par rapport à ça, qui est une question beaucoup plus générale, c'est bon. Déjà, je pense que la marque Facebook est burnée. Moi, personnellement, Facebook, je n'y vais que pour souhaiter des anniversaires, je l'utilise plus. Messenger, c'est devenu un produit aussi que j'utilise de moins en moins. Essentiellement, quand on m'envoie des messages, je réponds, mais je l'utilise plus. J'utilise encore un peu WhatsApp. Mais le gros sujet, à mon avis, c'est que c'est la question de l'intimité. Aujourd'hui, on a laissé des plateformes, Facebook, mais c'est pas les seuls, Gmail, accéder à notre contenu intime. Ça, c'est nos emails, nos messages personnels. Et le rôle d'un État, ou en tout cas le rôle d'une institution comme l'Europe, aurait dû être de dire, nous fixons les limites. Pour moi, le fait qu'on analyse mes emails, qu'on analyse mes messages Facebook, qu'on analyse mes préférences qui sont du domaine de l'intime, devrait être purement et simplement interdit. C'est-à-dire que déjà, la question des données personnelles sur les chats ne devrait pas être une question. Ça devrait être niet. Le fait qu'on ait laissé faire ça, le fait qu'on ait en fait permis à des plateformes d'avoir un profiling plus important, parce que ce qu'on dit sur WhatsApp, c'est pas ce qu'on dit sur Facebook de manière publique ou même privée, et c'est quelque chose de très intime. Et donc l'analyse comportementale de ces données permet, comme vous le savez désormais, tout est politique, d'affiner le targeting des gens. Et pour moi, ça devrait être purement et simplement interdit. De la même manière que la publicité micro-comportementale doit être interdite, l'accès de ces plateformes à notre intimité, le mining, l'analyse de nos photos personnelles par Google Photos, tout ça devrait être interdit. Ça, c'est une. J'en suis arrivé à cette conclusion. Voilà, c'est ma. C'est donc l'amende doit peut-être record, mais la vraie réponse devrait être vous n'avez plus le droit de le faire.
Ça, c'est pour question. Ça, c'est pour le futur, mais excuse-moi. Mais par contre, à l'heure actuelle, est-ce que t'as pas la sensation que cette sanctuarisation de l'intimité, si on veut vraiment l'intimité, c'est un luxe presque. Tu vois,
absolument.
Quand tu vois voilà, Apple versus les autres, etc. Est-ce qu'actuellement, on n'en serait pas là ? De quoi ?
Alors, Apple fait la même chose que les autres. Hein. Seulement, on peut dire que Facebook est une force de dissuasion, enfin une arme de dissuasion. C'est-à-dire qu'ils ont permis à d'autres acteurs comme Cambridge Analytica d'extraire les données. Apple a la même pratique, mais comme Netflix, mais ils s'en servent
pour eux. Ouais.
Pour eux.
Ouais, exactement.
Et Google aussi un peu. Ouais. Pardon, Google est dans un mode hybride.
J'ai une petite question pour aller dans la subtilité ici. Parce qu'en fait, j'ai vu un tweet de quelqu'un qui trouvait un peu dans la même lignée de ce que tu dis, mais absolument indécent que Google puisse analyser mes emails et du coup me proposer de me donner les horaires de départ et d'arrivée de l'avion parce qu'il voit que j'ai commandé ce billet d'avion. Et en fait, est-ce que tu différencies le fait de dire un algorithme lit tes données pour te donner du service à toi, mais qui n'est pas nécessairement agrégé et réutilisé pour du profiling? Ou est-ce que finalement c'est tellement facile de passer cette frontière-là que pour toi il n'y a pas de différence?
C'est difficile parce que c'est une question que je me suis posée. D'ailleurs, entre parenthèses, ils ont arrêté ce service. Il y avait un truc qui s'appelait Google Flight qui analysait tes emails et qui te donnait ton billet d'avion, qui te sortait même le billet. Enfin, c'était hyper bien fait. Le problème, c'est que la frontière est ténue et l'éthos de ces sociétés est d'utiliser ces données pour non pas revendre ces données, puisque finalement Google et Facebook ne revendent pas nos données, elles revendent l'intelligence qu'elles en ont compris sous forme de ciblage comportemental, puisqu'on a maintenant aussi des données, comme vous savez, médicales avec Fitbit. Enfin, on va avoir un ensemble de choses. Facebook a du mal à rentrer dans la santé, mais Apple est entré dans la santé, Amazon est en train de rentrer dans la santé. Et Google également, pour pouvoir donner toute la palette de notre état d'esprit et notre capacité à accepter l'engagement que médicalement on appellerait plutôt de l'addiction, parce que c'est ce qu'ils vendent. Et ça, c'est une vraie question. Moi, je suis étonné qu'en Europe, on se soit jamais posé la question, parce qu'on parle beaucoup, vous savez, d'éthique, des algorithmes, de l'IA. Enfin, il y a beaucoup de blabla là-dessus. Et ça, c'est pour moi une question à laquelle j'ai pas de réponse immédiate, parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que dire oui ou non. Mais c'est une vraie question. Qu'est-ce que doit être un service parce que d'un point de vue purement d'extraction de données et de représentation des données sous une forme beaucoup plus lisible, ça peut être simplement le software qui le fait. À partir de quand ces données, une fois qu'elles sont utilisées pour nous retargeter sur YouTube ou sur Google? Le fait qu'on ait lu qu'on va partir en voyage quelque part et qu'on cherche, on va à Venise et qu'on commence à chercher Paris-Venise sur Google Flight, est-ce que les tarifs sont les mêmes? Est-ce que ça va? On peut en fait d'une certaine manière contester la réalité logicielle qui nous est présentée par ces produits à cause de ça. Et je pense que c'est un débat qui va nous occuper en tout cas les 10 ans qui viennent, parce que le drame évidemment, c'est qu'on a découvert que tous ces outils qui étaient géniaux pour le business ont aussi servi à recruter des gens pour QAnon et puis l'insurrection du Capitole et les djihadistes, et en fait tous les problèmes qu'on a de radicalisation algorithmique sont liés au fait qu'à un moment donné le recrutement se fait sur des bases de plus en plus fine et précise.
Tu disais un truc récemment, je me souviens plus du chiffre, 70 ou 80% des gens qui ont rejoint des réseaux QAnon sur Facebook l'ont fait par recommandation, c'est ça?
Absolument, depuis en fait que Facebook a basculé, comme plus personne ne poste rien sur Facebook, d'ailleurs plus personne ne poste rien sur Instagram, tout simplement parce que personne ne peut sortir de chez lui et que photographier son chat ou sa nouvelle cuisinière ou ses nouvelles chaussettes, ça a des limites. Donc Facebook a été obligé de remodifier son flux pour mettre plus en avant les groupes et faire des suggestions de groupes. Et il suffisait qu'une personne de votre entourage parle de la conspiration Q pour que des suggestions de groupes se fassent, et les gens apparemment ont été recrutés massivement, avec évidemment le sujet, c'est que de plus en plus de gens, maintenant que l'élection a été perdue et que le grand renversement qui était prévu ne s'est pas passé, beaucoup de gens maintenant sont retargetés par ces mêmes outils pour aller rejoindre ben, l'extrême droite pure et simple, c'est-à-dire les néo-nazis américains, les Proud Boys et tous ces trucs-là. Donc il y a un vrai problème, c'est que cette machinerie qui a été utilisée au départ pour du commerce est devenue une machinerie folle qui est entre les mains de gens qui n'ont pas des intentions importantes. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant avec Signal et ce qui est intéressant avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que Facebook est devenu un environnement toxique, c'est-à-dire que c'est un environnement où on n'a pas forcément envie d'entrer parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Moi, découvrir que quelqu'un que j'apprécie aux États-Unis, ce qui m'a malheureusement arrivé à plusieurs reprises, des gens avec qui j'ai des relations personnelles, des gens vraiment super gentils, les retrouver à parler de Trump et du vol de l'élection et de choses sur le Covid, mais qui vous donne vraiment, ça vous met mal à l'aise. Et Facebook a généré, a amplifié ce genre de comportement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, si je vais là-bas, je vais être forcément déçu ou énervé, et donc j'y vais plus.
Mais tu vois, là on parle de Facebook, mais pour moi le problème il est pas que sur Facebook. Moi j'ai pas de compte Facebook parce que j'ai toujours refusé. Par contre j'ai eu un compte Twitter dont je me suis beaucoup servi pendant longtemps, et aujourd'hui je n'y vais plus parce que je ressens exactement ce que tu viens de décrire. Voilà, j'ai moi-même subi des comportements violents de potes de la vraie vie, quoi, tu vois. Donc le problème est global à toutes les plateformes qui aujourd'hui nous polarise en fait d'une manière qui nous échappe complètement.
Et non, absolument.
Tu parlais d'interdiction, Tariq, mais alors du coup, tu la vois comment cette interdiction avec des directives européennes? On parlait du dernier épisode des Cascodeurs sur cette question, on parlait du Digital Service Act, du Digital Market Act. Mmh. Récemment, il y a le Data Governance Act. Donc tu la vois comment cette régulation en fait?
Ça, c'est une vraie question parce que le problème de, comme vous le savez, de la régulation européenne, c'est qu'elle passe par la case lobby et tout texte qui démarre en étant intéressant, comme les textes que tu viens de citer, on ne sait pas en quoi ils vont être transformés dans 2-3 ans. Et en même temps, on a un autre problème, c'est qu'on a une urgence aujourd'hui. On est quand même en phase de pandémie où, en fait, la plupart des gens refusent le vaccin sur des arguments qui sont scientifiquement désastreux, et en plus amplifié par les médias, parce qu'on pourrait en parler, mais aussi le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est aussi le business des chaînes de télé de mettre des excités à la télé et ensuite de faire des pastilles de 1 minute pour nous inonder de choses, de débats dont on n'a pas vraiment envie en plus en ce moment. Et ce que tu disais, c'est que je pense qu'il y a un sujet qui est très intéressant, c'est que la CNIL, à mon avis, devrait avoir une compétence sur le design, puisque le design, ce qu'on appelle les dark patterns, donc c'est utiliser du design pour obliger les gens à faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire, typiquement uploader tout leur carnet d'adresses sur Facebook parce que Facebook leur a fait croire qu'il y a un petit bouton rouge qui leur dit « Ah, vous avez oublié de faire ça » et quand vous cliquez, vous avez cliqué avant même que vous réalisez tout votre carnet d'adresses a été aspiré pour savoir quelle est la viralité. Évidemment, dès qu'on connaît la viralité de votre carnet d'adresses, c'est-à-dire qui vous avez déjà sur Facebook, on va immédiatement améliorer les scores pour la publicité, pour ce qu'on appelle le EdgeRank, qui est l'algorithme interne de Facebook. Et ça, je pense qu'on pourrait avoir un travail justement qui sur le design de persuasion, parce que tout ce que tu disais sur Twitter est lié en fait à l'application. L'application est faite pour que des gens avec le fear of missing out, c'est-à-dire que toutes ces applications, d'une certaine manière, elles différencient il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose, c'est un état, voilà, on est heureux. Le plaisir, on en veut toujours plus, donc c'est lié à la dopamine. Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on veut en permanence nous sevrer à cette addiction de plus de choses, dès qu'on a fait quelque chose qui nous semble satisfaisant, on a besoin de le refaire, et donc on se retrouve dans une situation où les gens, c'est un peu le quand on est dans le métro, que la porte va se fermer, que c'est blindé, et qu'une femme enceinte, une vieille dame ou un monsieur avec une canne passe, ben tout le monde va pousser pour rentrer dans le wagon, indépendamment d'ailleurs de les gens ne réfléchissent plus, ben Twitter nous met dans cette situation où quand on est on est pris dans un espèce de thread, entre les trolls évidemment et tout ça, on se retrouve avec des gens Et moi, c'est ça qui me choque. Ce que tu disais aussi, des gens que tu connais, qui, s'ils ne sont pas contents, peuvent t'appeler, te dire, je suis pas d'accord avec toi, et qui se retrouvent à t'insulter ou à te critiquer d'une manière qui n'est pas très élégante, et qui après, parfois même, quand ils reviennent de cet état, donc ils sont décevrés, se rendent compte de la bêtise et parfois même t'appellent, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais besoin d'exister pendant un moment dans cette conversation et donc je m'en suis pris à toi.
Mais est-ce que tu crois, parce que tu sais, tu l'as vu, enfin, moi je suis un tout petit peu plus jeune que toi, mais tu vois, on a parlé des jeux de rôle qui étaient satanistes, enfin, qui allaient transformer la moitié de l'Amérique en adeptes de Satan, etc. Est-ce que tu crois que les nouvelles générations, ayant grandi là-dedans, auront une immunité acquise naturelle?
Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai lu un article, je vous le retrouverai hein, pour si vous voulez le partager à vos auditeurs, qui présentait QAnon comme un game design justement qui a raté parce que dans vous savez les ce qu'on appelle les escape games, c'est ça?
Escape game. Ouais.
Donc c'était un game designer.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est de la. Voilà. Bah, c'est le geocaching, mais des idées politiques, ouais.
Et en fait, ce qu'expliquait ce game designer, c'est que quand tu es un whistleblower, ben, prenons par exemple Snowden, tu essayes de sortir le maximum d'informations le plus vite possible. Et tu exposes le travail de surveillance de la NSA. D'ailleurs, la première des choses qui est sortie, si vous vous rappelez, c'était Prism. C'était d'ailleurs la chose la plus choquante, qui était la collaboration de certaines grandes plateformes avec la NSA. Bon, ce qui... quand tu connais un peu les États-Unis, est totalement normal. C'est-à-dire que c'était un secret de polichinelle pour beaucoup d'entre nous, sauf que là, tu avais des documents officiels. Donc, ça changeait un peu la donne. Là, avec QAnon ou des modèles de ce type, c'est il y a une conspiration et on te dit pas exactement quoi, mais on te dit toujours « faites vos propres recherches ». Donc, en fait, on crée un système de jeu où on te donne des clés et au fur et à mesure que tu trouves ces clés, tu passes à la clé suivante. Et le problème, c'est que déjà, il y a eu une analyse qui a été faite qui montre qu'il y avait deux Q, il n'y avait pas qu'un seul. Mais surtout que, en fait, ça, l'internet fonctionne très bien pour ce genre de technique. Et effectivement, un evil game designer peut réussir à créer beaucoup de dégâts. Alors après, est-ce qu'on est immunisé? Je pense que le cerveau que l'on a n'a pas évolué. C'est simplement qu'en ce moment, je pense qu'on est dans une phase où on en a trop pris. On s'est quand même pris 4 ans et 5 ans de Trump, puisqu'il est aussi allé à la campagne. Et aujourd'hui, on a encore du mal à se rendre compte de tout le flot d'informations contradictoires, délirantes qu'on s'est pris par jour. Et il y a quand même une époque, on était presque à 10 scandales par jour quand même. C'est du jamais vu hein, dans l'histoire américaine. Et les chaînes de télé qui elles-mêmes ont complètement perdu les pédales, puisque elle savait plus où donner de la tête, et Twitter évidemment qui devenait fou, qui répondait à. Et là, je crois qu'on est dans une phase un peu différente, en tout cas au niveau des États-Unis. Et je crois que le principal risque aussi pour Twitter, pour Facebook, tu le vois avec tous les gens qui sont en train d'utiliser. Là, ça fait maintenant 6 mois que je suis sur Clubhouse, qui est un réseau social qui a l'air d'être très prometteur, même si je reste encore dubitatif sur sa capacité à polariser, mais les gens étaient fatigués de la du fight et ont juste envie de parler.
Excuse-moi, je me permets d'apporter une précision. Si je me trompe pas, c'est un réseau social qui est basé sur la voix. C'est
absolument.
Ça
tu des conversations. On aurait pu faire ce qu'on fait sur Clubhouse et avoir une audience sur Clubhouse et en fait la discussion. Alors il y a les pros et les contres, les pour et les contre, ouais. mais quand tu es dans une discussion un peu sérieuse avec des gens de qualité, soudain, tu ressens un plaisir différent. C'est une forme de méditation. Alors que quand tu es sur Twitter ou sur Instagram, tu es en permanence dans le stress parce que tu es dans la comparaison. Donc on touche des zones du cerveau différentes. Et je pense qu'il y a vraiment les 10 années qui viennent, on va revenir à des produits un peu plus apaisés. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que je parle de Slow Web, plus apaisés, ou en tout cas où l'outil. Il y a une différence pour moi entre l'outil et la plateforme. Gmail, c'est une plateforme, mais les serveurs de mail, SMTP, ça existe depuis les années 70 quasiment. Et on peut séparer les protocoles des services pré-intégrés. Pareil pour le chat, il y a Jabber, Messenger. Et j'espère qu'on va revenir à des choses beaucoup plus simples où en fait on a un outil de base assez simple qui n'a pas besoin de faire plus que nécessaire. Et on va réutiliser ces outils qui sont interopérables. Moi, c'est ce que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pousse évidemment de mon côté. Mais je pense que il y a plein de gens qui pensent à ta place et qui vont surbooster le produit en feature qui te servent à rien, mais qui eux leur donnent l'impression d'agir. Que cette ère, elle est un peu, donc en gros Facebook, que cette ère, elle est un peu en train de disparaître.
Alors, c'est intéressant que tu parles de Clubhouse parce que Twitter a annoncé le mois dernier qu'ils allaient se lancer dans une expérimentation. Alors, je me souviens plus exactement du nom qu'ils ont choisi.
Space.
Ouais. Voilà. Pour faire la même chose. Et ils étaient assez inquiets sur l'aspect de modération, justement.
Absolument.
Et donc, ils avaient expliqué ce qu'ils allaient faire, pas mal de tests avant d'ouvrir ça à tout le monde, etc. Après, je l'ai pas testé, moi, mais j'aurais tendance à dire intuitivement que peut-être que ça nous réhumanise un petit peu parce qu'on récupère une partie de tout ce non-verbal qu'on perd sur un tweet de 100 caractères, de 140 caractères balancé comme ça à l'écrit. Là, on va récupérer de l'intonation, on va récupérer un petit peu de ce qui nous rend humain, en fait, dans nos échanges.
Ben, faut l'espérer. Moi, je te dirais, je teste Space. Enfin, il doit m'envoyer une invitation cette semaine, la semaine prochaine. Donc, c'est une question que la question que tu poses est une question ouverte, à mon avis. Mais je sais pas ce que les autres en pensent.
Les gens qui faisaient leur école, leur classe sous Zoom et qui se faisaient bomber par une minorité, mais qui, du coup, polluaient l'ensemble. Je suis pas aussi optimiste que toi, Audrey.
Tu vois? Attends, pour une fois que j'essaye d'être positif.
Je sais, j'en suis vraiment navré. D'ailleurs, Twitter a annoncé d'autres choses. Ils ont annoncé, en tout cas mis un peu plus en public, Blue Sky, qui est leur idée d'un réseau, projet de réseau décentralisé sur lequel Twitter ne serait qu'une fédération.
C'est la fin de la première partie de cet épisode spécial Loi, Société, Organisation avec Agnès Crépé et Tariq Krim. La deuxième partie au prochain épisode d'interview avec notamment la déplateformisation de Trump.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.